Alors pour ce matin, j'ai un texte à vous proposer, un passage biblique en fait, où il y a un verset qui est assez connu, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, dit l'Éternel, et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. » Ou c'est dans le contraire, hein, « Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce texte, on le connaît, hein? Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, ils l'ont déjà entendu. Alors, c'est le prophète Jérémie qui l'a annoncé. Et on lira dans quelques instants tout le passage biblique autour de ce verset. Et puis, on va s'intéresser un petit peu au travers de ce message, au contexte aussi de ce passage, de ce verset que je viens de vous proposer. En fait, c'était Jérémie qui avait écrit une lettre aux captifs de Jérusalem. Ceci suite à la prise en 597 avant Jésus-Christ, de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Et la ville avait été prise une première fois en 597 par ce roi. Et puis, il est revenu plusieurs fois, et une dernière fois de manière définitive, en 587 avant Jésus-Christ, donc 10 ans plus tard, hein, on compte à l'envers. Vous comprenez, hein, vu qu'on est avant Jésus, donc on compte à l'envers. C'est comme les aiguilles de la montre, on ne sait jamais au printemps s'il faut les avancer ou les reculer, hein, ou, et puis si l'automne pour reculer ou avancer les aiguilles. Donc maintenant, il y a les natelles qui font tout automatique, merci Seigneur. Hein. Alors là, 587, 597, en fait c'est 10 ans d'écart. 587, c'est le moment où la ville est définitivement prise, où le temple est rasé, où la ville est incendiée. Donc, cette lettre qui a été écrite par Jérémie aux captifs, c'est durant cette période, c'est peu de temps après 597, mais c'est avant 587. Parce qu'en 597, il y a déjà eu des déportés à ce moment-là. Il y a déjà des gens qui ont été pris par le roi babylonien et qui ont été exilés à Babylone. Et en fait, Jérémie s'adresse à ces gens-là, à ces exilés à Babylone, pour les encourager. C'était un temps où il y avait aussi d'autres voix prophétiques qui se levaient pour dire, ben voilà, c'est bientôt, Dieu va bientôt délivrer, Israël va pouvoir retourner sur ses terres, ne vous inquiétez pas, il y avait des voix prophétiques de ce genre. Donc les gens étaient vraiment un peu dans l'incertitude complète, dans la confusion, autant pour les gens qui étaient à Babylone déportés, que pour les gens aussi à Jérusalem. C'était dur de savoir en fait l'avenir, parce que tout était incertain. Peut-être certains pouvaient se dire aussi, vu que ce roi babylonien partait régulièrement en guerre, qu'à un moment donné, il y a une guerre qui allait enfin se retourner contre lui, et que ce roi-là allait être vaincu. Hein, il avait aussi attaqué l'Égypte, il avait attaqué des pays puissants. On pouvait se dire, ben, à un moment donné, peut-être que Dieu, dans une des batailles, interviendra, et puis nous, on aura le champ libre, il n'y aura plus personne pour nous garder, tout le monde aura fui Babylone et puis on pourra retourner chez nous tranquille dans nos maisons. Donc vraiment, un contexte politiquement très instable et plein d'insécurité, et c'est là que en fait Jérémie va s'adresser aux captifs à Babylone. Alors je lis, c'est Jérémie 29. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Jérémie 29, verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Eleaza, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Elkidja, envoyé à Babylone. Là, j'ai presque besoin de la lumière, hein, t'as raison. Par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent. Des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car, voilà le verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Alors, on voit dans l'introduction de cette lettre, déjà dans le premier verset, un petit peu le contexte historique dans lequel Jérémie a écrit. Hein. Le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Ça, c'était les premiers déportés par Nebuchadnezzar, et c'est en 597 avant Jésus-Christ. Et puis après, on a une deuxième indication au verset 2. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de la ville. Là, le roi, en fait, Nebuchadnezzar, va revenir une seconde fois, très rapidement, je pense que c'était même encore en 597, parce qu'il y a un nouveau jeune roi qui est mis au trône à l'âge de 18 ans, et en fait, il va régner un temps très court, 3 mois et 10 jours, et puis on voit qui c'est qui règne, hein, parce qu'il est écrit, le roi Jéconia, la reine, en fait, la reine-mère, c'était elle qui dirigeait tout. Et puis, il y a de nouveau un soulèvement, et puis rapidement, le roi de Babylone revient et va remettre le siège devant Jérusalem. Et le roi va devoir sortir, et il va être emmené à son tour captif aussi. Hop, départ, deuxième voyage pour Babylone. Donc, cette lettre a été écrite juste après cette période, hein. Il a emmené captifs aussi des charpentiers et des serruriers. Pourquoi? C'était des artisans, en fait, ceux qui pouvaient être utiles pour la reconstruction de la ville, ceux qui pouvaient être aussi utiles pour fabriquer des armes. Le roi va prendre ces gens-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveau une révolte qui gronde et puis que de nouveau des armes soient en possession des gens de Juda. On fait aujourd'hui un peu la même chose, hein. En cas de guerre, on va aussi chercher à détruire les usines qui fabriquent l'armement, hein. Donc c'était la même démarche pour le roi ici de Babylone. Et puis on voit que cette lettre passe en fait aussi par la voie officielle. part, elle est envoyée à Babylone, là c'est la fin du verset 3, par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elle était ainsi conçue. C'était comme un peu une lettre diplomatique, c'était une lettre qui passait par la voie officielle, parce que Jérémie avait très bonne presse auprès du roi Nabucodonosor. Hein. Jérémie, il a eu un bon accueil de la part du roi Nabucodonosor, parce que le roi avait vu que, en fait, Jérémie ne faisait que d'avertir le peuple d'arrêter de se rebeller, et que ce n'était pas au travers de ce prophète que les tensions augmentaient contre son propre, contre le royaume de Babylone, en fait. Hein. Donc, Jérémie avait accès auprès du roi, et cette lettre a été transmise directement au roi Nabucodonosor, qui ensuite l'a lu certainement et puis remis après aux déportés. Donc voilà, on a un peu tout le contexte historique de cette lettre. Et que contient cette lettre? En fait, on peut voir, il y a deux axes principaux. Le premier, des encouragements, et le deuxième, des rappels prophétiques. Alors, on va voir un peu en détail ceci. Donc, pour les encouragements, comme je l'ai dit juste avant, c'était une situation vraiment difficile. Difficile autant en Israël que pour les déportés à Babylone. L'avenir était incertain. Et de pouvoir entendre une parole qui vient de l'Éternel, c'était quelque chose qui pouvait redonner de l'espoir, quelque chose qui pouvait redonner une direction aussi à leur vie. Le verset 4 nous introduit dans le contenu de cette lettre. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Ce n'est pas une lettre qui caresse dans le sens du poil, comme on dit. Hein? « À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Hein, c'est une parole quand même assez dure. Les gens, peut-être, ils devaient se dire, « Ah, oh là là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous conduit ici? Est-ce que c'est ce Dieu qu'on a servi qui nous amène en exil? Hein? » Faire le voyage, peut-être, il y en a certains durant le voyage, ils sont morts, parce que ce n'était pas dans un bus climatisé ou dans un avion first class. Hein? Le voyage, peut-être, il y a des gens qui sont morts durant ce voyage. C'était quelque chose de terrible. Et ceux qui n'avaient pas bonne santé, comment ils ont fini le voyage? Ils ne sont peut-être jamais arrivés à Babylone. Donc cette lettre, elle met tout de suite, entre guillemets, les pendules à l'heure, que j'ai amené de Jérusalem à Babylone. Mais ça montre aussi que cet événement aussi dur, aussi difficile qu'il puisse être, n'était pas hors de contrôle de Dieu. Ça indique que quand même aussi dans nos vies, des fois si on passe par des moments difficiles, Dieu reste au contrôle et qu'il n'est pas dépourvu par les situations des fois catastrophiques dans lesquelles on peut se retrouver. Et c'est sûr, peut-être que, comme je le disais aussi avant, certains des exilés, avec les prophéties qu'ils avaient entendues, ils s'attendaient à une délivrance toute proche. Et nous, des fois aussi, dans une situation difficile, on aimerait une délivrance toute proche. Hein, on est humain. On aimerait que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous délivre. Si on est au chômage, peut-être on aimerait retrouver rapidement du travail. C'est normal. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais des fois, le temps de la délivrance ne vient pas tout de suite et les choses prennent plus de temps. Ou bien sûr, on voudrait tous peut-être la grande délivrance. C'est laquelle? Le retour, hein? On aimerait peut-être tous, je pense, on rêve tous du retour du Seigneur, amen. C'est pas une mauvaise attente. Mais entre le rêve et la réalité, des fois, il y a quand même un peu un fossé. Et puis, même si la situation aujourd'hui est difficile, peut-être Dieu a aussi quelque chose à nous dire au travers de cette lettre, à nous encourager. Alors, on n'est pas en exil dans un pays étranger, ennemi, qui nous veut du mal. Mais on est quand même des exilés quelque part, tous, parce qu'on est tous de passage. Et notre patrie, elle n'est pas de ce monde, elle est céleste. On est en attente du retour du Seigneur, on attend de cette grande délivrance. Mais dans cette attente, est-ce qu'on va rester les bras croisés? Est-ce qu'on va dire, oh ben, moi je laisse mes projets professionnels de côté, là, maintenant, vive, j'ai un petit fonds, vive les vacances. Hein. De toute façon, Jésus revient bientôt, j'ai de quoi de vivre X temps dans tel pays, alors départ. Hein. Est-ce qu'on va agir comme ça si... Ben non. Et Dieu avait des paroles à partager à son peuple pour ses déportés. Et Dieu a peut-être aussi une parole pour toi ce matin. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Bâtissez des maisons. Si on va construire une maison, franchement, c'est un projet sur le long terme. Dieu n'a pas dit montez-vous des tentes, hein, une petite hutte là, juste deux, trois ficelles, vous nouez avec des branches et puis c'est parti, ça vous mettra à l'abri du soleil. Non, Dieu a dit bâtissez-vous des maisons, construisez-vous des choses dans le dur. Alors bon, ceux qui sont peut-être maçons, ce message va leur dire « Ah Seigneur, tu as même prévu une parole pour moi ce matin. Hein? » Mais si on construit quelque chose pour nous, honnêtement, je pense que c'est un des projets sur le plus long terme. Bon, on peut penser à la famille, bien sûr que pour la famille, c'est aussi un projet sur le long terme. Mais si on se construit une maison, en général, si on se construit une maison, on ne va pas s'en construire une deuxième. On va partir dans l'idée de se construire une maison pour être tranquille chez soi, en profiter. Et puis après, la génération suivante, soit elle la retapera, etc., etc. Si on a aussi, et bon, c'est pas moi, je ne peux pas me mettre dans le groupe, mais si vous avez aussi retapé cette église, entre guillemets, c'est aussi un projet sur le long terme. C'est juste, hein? Parce que si on se dit, ben, Jésus revient demain, bon, il y a un peu d'eau qui rentre par la tuile, les tuiles, là, c'est pas grave. On chauffe, enfin, j'y péclote, mais on peut rajouter 2-3 radiateurs électriques. On partirait comme ça sur du court terme. Mais je pense qu'on doit réfléchir long terme. Et aussi pour l'Église, pour nos vies, c'est sûr, mais aussi pour l'Église. Pour nos familles, bâtissons aussi quelque chose de solide. Pensons sur le long terme. Pensons pas sur le court terme. Et pour notre Église, pensons aussi sur le long terme. Et si on veut penser sur le long terme, ça veut dire qu'on va construire avec du dur, avec du solide, avec des éléments qui vont persister, qui vont demeurer, qui auront une durée dans le temps. Et si on veut construire du solide, ben ça prend du temps, justement. Hein? On peut faire un truc préfabriqué, mais dans 10 ans, tu devras déjà refaire tes crépis parce que ça fuira d'ici, de là, l'isolation pour finir. Vous voyez comment ça va? Bon, maintenant, ils font du préfabriqué de bonne qualité, mais c'est quand même pas aussi solide que de la bonne vieille brique, comme on dit. Et je crois que ce principe dans la construction est le même aussi pour l'Église. Aujourd'hui, des fois, on est quand même dans une société de consommation. Hein? Donc une société de consommation, on veut les choses tout de suite. On n'a même pas l'argent, on veut. On peut faire des crédits, des leasing pour tout. Bientôt, on fera bientôt, pourquoi pas, un leasing sur une brosse à dents. Hein? on n'en est pas encore là, mais des fois pas bien loin. Que je vois comment on peut tout acheter par leasing, c'est impressionnant. Des choses vraiment de seconde nécessité, et même encore bien loin derrière. Les gens, des fois, vont se mettre à crédit, à porte-à-faux financièrement pour des choses vraiment complètement secondaires. Donc, construire sur du solide, c'est quoi pour l'Église? C'est construire avec les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est vrai que construire une Église comme ça, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Et on ne va peut-être pas voir tout de suite le résultat de notre travail, mais les fruits vont avoir une portée éternelle. Et je crois que si on construit de manière solide, eh ben, avec le temps, il y aura une bénédiction. Amen. Aujourd'hui, on a des églises qui ont un résultat extraordinaire et très rapidement, mais parfois, on peut quand même se poser la question avec quoi est-ce qu'elles bâtissent. Si je donne un exemple par rapport au domaine professionnel, vous pouvez, vous ouvrez un commerce et puis vous faites rapidement du chiffre parce que vous cassez les prix par rapport au marché. Mais si vous cassez les prix, ben, il y a quelque part où vous devez bien vous récupérer. Donc vous récupérez peut-être justement en préparant moins bien la marchandise ou en offrant une marchandise de moins bonne qualité. Et au début, vous allez faire du chiffre parce que vous allez prendre des parts de marché de vos concurrents. Mais au bout d'un moment, quand la clientèle va voir que ce que vous vendez est moins bon, eh ben, votre marché va aussi diminuer. Et puis un jour, peut-être, votre entreprise, vous devrez la fermer. C'est la même chose avec, par exemple, une marque de voiture qui ferait des prix tout en discount, tout en rabais. Les gens vont se dire, oh, mais pourquoi est-ce que je mettrais ce prix-là dans une voiture alors que pour 30% de moi, j'ai la même, avec les mêmes options, elle est tout autant brillante, elle est tout autant jolie. Pourquoi j'investirais autant d'argent alors que pour le même montant, pour un montant moindre, je profite de quelque chose de tout à fait autant valable. Et au bout d'un moment, une marque, si elle travaille comme ça, mais que la qualité n'est pas présente, qu'est-ce qui va se passer? Elle va fortement vendre au début, et puis après, les clients vont voir que la voiture, il faut aller tout le temps au garage, que le jour où je veux la vendre, la marque a une mauvaise renommée, donc je perds sur la revente de mon véhicule, et que pour finir, je vois peut-être plus souvent mon garagiste que mon épouse. Ça va vraiment, ça. les parts de marché de cette fabrique de voitures, de cette usine de voitures, va aussi à son tour chuter. Et je pense que c'est la même chose pour l'Église. Osons bâtir sur le long terme, osons construire les choses d'une manière solide, parce que je crois qu'en retour, il y aura une bénédiction. Et on n'est pas là pour vendre du rêve en tant qu'Église, mais nous sommes là aussi pour que nos vies puissent être construites sur du ferme, sur la parole du Seigneur, sur du solide. On a besoin aujourd'hui d'être ancré sur la parole de Dieu. On a besoin d'être ancré profondément, enraciné profondément dans la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui, des fois, dans certaines églises, on met plus l'accent sur l'expérience, sur l'émotion, sur des choses extraordinaires qu'on vit. Alors attention, il faut vraiment garder un équilibre. Quand vous entendez des messages qui sont axés plus que sur des expériences extraordinaires de ce que j'ai vécu dernièrement, et voici, j'ai vécu ça, ceci, cela, mais la foi vient pas de ces grandes expériences. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... vient pas de l'expérience. C'est tronquer les choses. Et moi, je veux baser ma foi, je veux construire ma vie avec le Seigneur, pas sur l'expérience d'un autre, mais sur la parole de mon Dieu. Amen. Et pour ça, j'ai besoin de revenir aux Écritures, j'ai besoin d'étudier sa parole. Et peut-être c'est moins fun, peut-être j'ai moins de gros témoignages à partager le dimanche matin, mais je sais que par la grâce du Seigneur, je vais pouvoir bâtir sur du solide. Amen. J'ai tout autant besoin de la grâce de Dieu jour après jour, mais je sais que sa parole est là et son esprit est là aussi pour venir encore à ma rencontre. Et étant qu'enfant de Dieu, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, et un des signes du baptême, c'est aussi que le Saint-Esprit vient nous convaincre quand on a péché. Il vient nous dire, mais attends Alex, là, tu pensais peut-être bien faire, tu pensais peut-être prendre un bon chemin, mais il y a une conviction tout d'un coup. Et puis on se dit, ah non, c'est vrai que là je reviens Seigneur, je reviens, j'ai peut-être pensé faire construire quelque chose avec toi, mais peut-être je me suis égaré. Donc le Saint-Esprit désire encore nous renouveler, bien sûr, pour qu'on puisse construire un édifice solide à la gloire du Seigneur. Et puis, vous connaissez certainement aussi ce passage dans Jean 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Amen. Ça, c'est l'attitude d'un véritable serviteur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On n'est pas là pour construire quelque chose à la gloire d'une dénomination, ou à la gloire d'une fédération, ou à la gloire d'une église, ou à la gloire d'un ministère. Nous sommes là pour servir notre Seigneur. Donc, nous devons aussi être prudents que tout ministère est axé que sur sa propre réussite, sa propre gloire, sa propre renommée. faut parfois mieux se détourner de ce genre de ministère et peut-être même des fois de ce genre d'église aussi. Car un véritable serviteur de Dieu et une véritable église qui cherche à honorer son Seigneur sera axée non sur des hommes, mais sur Jésus. Qui est celui qui aujourd'hui encore baptise de feu et de Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est vers lui que nous voulons aller. C'est vers lui que nous voulons être, et par lui que nous voulons être renouvelés. Ce n'est pas par les hommes. Moi, je ne veux pas aller courir de droite à gauche pour recevoir une bénédiction. Ceux qui ont connu, il y a eu un temps la bénédiction de Toronto, moi je l'ai connu, je l'ai vécu, je ne connaissais pas grand-chose à tout cela. Mais celui qui bénit véritablement, c'est Jésus, ce n'est pas l'homme. Pourquoi j'ai besoin d'aller courir jusqu'à Toronto pour recevoir une bénédiction, alors que c'est Jésus qui véritablement est celui qui baptise du Saint-Esprit? Bien sûr que Dieu, des fois, il va utiliser un canal humain, mais en priorité, n'oublions pas que c'est Jésus. Je ne vais pas aller courir d'un endroit à un autre pour aller chercher une quelconque onction que Jésus, lui seul, peut véritablement me donner. Donc, cette lettre avait deux parties. Une première partie d'exhortation, bâtissez des maisons, prenez des femmes, engendrez des fils, prenez aussi des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Hein, c'est tous des projets sur le long terme. Alors pour nos vies aussi, pensons, malgré, c'est vrai que des fois les circonstances de l'existence ne sont pas toutes évidentes, mais pensons quand même sur le long terme. Que ce soit dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'Église, comme je l'ai dit, mais aussi dans le cadre professionnel. Peut-être tu peux refaire un complément de formation, ben peut-être que c'est le Seigneur qui te bénit. Entre peut-être dans cette opportunité, cherche la face du Seigneur, si c'est ce qu'il veut pour ta vie, hein, ou bien pour ceux qui sont aux études, je pense que ce n'est pas du temps perdu. Parce que le Seigneur, il sait pourquoi il t'a conduit jusqu'ici, il sait pourquoi il a préparé un chemin devant toi. Un temps de formation, ce temps de formation n'est pas inutile, loin de là. Un jour, cela peut servir aussi à la gloire du Seigneur et à te donner aussi un avenir. Projet non de malheur, mais projet de paix, afin que tu puisses avoir un avenir et une espérance. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et puis la deuxième partie, je vous disais aussi, et vous verrez, je vais rapidement finir, la deuxième partie, c'est un rappel prophétique. Verset 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Dès que 70 ans seront écoulés. Il y avait un temps, et tout à coup, il y a un temps aussi dans nos vies où les choses commencent à s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu fait que des circonstances s'entrecroisent et que des fois des nouvelles opportunités s'ouvrent à nos vies. Mais c'était, et c'est encore aujourd'hui, selon le temps de Dieu. 70 ans d'exil, c'est quand même un certain temps d'attente, c'est quand même aussi des sacrifices. Et cette parole-là, le prophète Jérémie l'avait donnée déjà, même avant la prise de Jérusalem, et ça, il a eu des menaces de mort hein, par rapport à ça. Hein. « Ah, mais prophète, me dégage, qu'est-ce que tu viens dire là? Tu viens mettre la peur au milieu du peuple de Dieu. » Cette prophétie avait déjà été annoncée, c'est pour ça que c'était un rappel prophétique. Mais à un moment donné, l'heure va aussi arriver pour les exilés, pour le retour. Et dans nos vies, c'est la même chose aussi. Il y a aussi un temps pour l'accomplissement, un temps où Dieu fait que les circonstances deviennent favorables à notre égard. Verset 12. Parce que pour que nous puissions entrer dans ces circonstances favorables, pour que nous puissions entrer dans les prophéties de Dieu, pour que nous puissions entrer dans la bénédiction du Seigneur, en fait, ça ne se fait pas automatiquement. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ce n'est pas automatique. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la prière. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a quelque chose à faire de notre part pour entrer dans les temps bénis du Seigneur, même dans les temps de la promesse. Il faut la prière. Si on ne prie pas, les choses ne s'accomplissent pas. Vous connaissez l'histoire de Daniel, du prophète Daniel. Tout d'un coup, le prophète Daniel a réalisé que les 70 ans étaient arrivés à leur terme, là, et qu'il n'y a rien qui bougeait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié devant Dieu, il a jeûné, il a prié. Et c'est parce que cet homme a fait cette démarche devant le Seigneur que les choses ont commencé à bouger, non seulement dans le plan spirituel, mais dans le plan physique. Et pour nous, c'est la même chose. Si on ne prie pas, si on se dit « Ah, de toute façon, Dieu va bénir l'Église, Dieu va bénir ma famille parce que c'est son boulot, Dieu va bénir mes activités professionnelles parce que voilà, moi je le sers et puis je fais la part qu'il me demande. » Non, la prière. La prière. C'est par la prière que nous allons pouvoir rentrer encore dans les projets de paix et non de malheur que l'Éternel a pour nous. Et si, et quand il y a un si, c'est qu'il y a une condition, si vous me cherchez à moitié, de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a une attitude de cœur. Et pour que cette attitude de cœur soit en accord avec le Seigneur, mais il ne faut pas marcher selon la chair, hein, on a entendu, par rapport à la Sainte Cène, mais il faut marcher par l'Esprit. Et ça, c'est un parcours de tous les jours. De tous les jours où il faut, des fois, revenir, laisser le Seigneur nous renouveler, nous conduire, laisser cette chair en arrière, des fois, qui se la joue aussi très spirituelle, et se laisser conduire dans ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je crois que nous avons l'amour du Seigneur et nous avons cet amour pour le chercher de tout notre cœur. Et nous savons que ces projets, en fait, ces projets, c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Et puis peut-être on ne verra pas tout ici, on ne verra pas le fruit de toute notre implication, de toute notre recherche à faire la volonté de Dieu. Mais qu'importe, un jour c'est encore lui qui nous bénira, un jour c'est encore lui qui multipliera le travail d'une vie à son service. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Alors j'ai fini pour ce matin. Un petit rappel au travers de cette lettre aux exilés. Que cela puisse nous donner encore de l'espérance, encore envie de construire sur du solide, encore envie de construire sur du long terme, qu'on puisse être prêt à diriger nos pensées aussi dans cette direction, à ne pas chercher juste un plaisir éphémère et futile comme bien des fois la société nous le propose, mais à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen.